Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Voilà sans aucun doute ce que ces canailles cherchaient, la fameuse carte de l'île au trésor. Latitude, longitude, et des croix pour indiquer la place des caches, des monceaux d'or et d'argent. Tu es malin, petit Hawkins. Tu peux me croire, si nous réussissons, tu seras riche.
De la montagne qui s'appelle Longue Vue, direction sud-sud-est, jusqu'à l'arbre en forme de doigt, par le rocher du diable.
Ça peut pas faire de mal.
Puis à deux lieues au sud...
Continuez, docteur.
Prendre à tribord, plein nord-est jusqu'au pied du pic blanc. 10 pas vers l'est, un trésor que l'on évalue à 750 000 écus.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Jim, me dit Billy Bones, tu es le seul ici qui vaut quelque chose. Et tu sais que j'ai toujours été bon pour toi. Et maintenant, tu vois, compagnon, je suis tombé bien bas, abandonné de tous. Dis, Jim, tu vas m'apporter un petit coup de rhum, hein, mon gars? Mais le docteur... Il m'a interrompu en maudissant le docteur d'une voix faible mais rageuse. Les docteurs, c'est tous des crétins. Et ce docteur-là, non mais... Il connaît quoi sur les gens de mer? Je suis été dans des endroits aussi chauds que du goudron fondu et les gars tombent comme des mouches de la fièvre jaune. Il connaît quoi sur ces pays-là, le docteur? J'ai vécu de Rome, je te dis. C'était ma viande et ma boisson et nous étions comme mari et femme, cette boisson et moi. Et si j'aurais pas mon rhum, là, tout de suite, je suis une pauvre vieille carcasse échouée, que mon sang rejaillisse sur toi, Jim, et sur ce crétin de docteur. Il a lancé une nouvelle salve de jurons, puis, prenant un ton plaintif, « Regarde, Jim, comme mes doigts dansent. Je peux pas les tenir tranquilles. J'ai pas eu une goutte de toute la sainte journée. Ce docteur est un idiot, je te dis. Si je bois pas une gorgée de rhum, Jim, j'aurai des hallucinations. » Ça a déjà commencé, j'ai vu le vieux Flynn dans le coin, là, derrière toi. Comme si son portrait serait imprimé sur le mur, je l'ai vu. Mais si j'ai des hallucinations, j'ai vécu rude, Jim. Je deviendrai pire qu'un démon. Ton docteur soi-même a dit qu'un verre me ferait pas de mal. Je te donne une guinée d'or pour un doigt de rhum, Jim. Quand je le lui ai apporté, il l'a saisi avec avidité et l'a bu d'un seul coup. Oh, ça va mieux, sûr et certain. Et maintenant, mon gars, écoute bien. Ils sont après mon vieux coffre marin, tout l'équipage du vieux Flint, hommes et moussaillons, ce qui en reste. J'étais son second, c'était moi le second du vieux Flint, et je suis le seul qui sait l'endroit. Il me l'a confié à Savannah. Il était en train de crever, comme moi maintenant, tu vois. Alors ouvre l'œil, Jim, et je partagerai avec toi moitié-moitié, sur mon honneur. Il a divagué encore un peu d'une voix de plus en plus faible. Je lui ai donné sa portion, qu'il a prise comme un enfant. Puis il est tombé dans un sommeil si profond qu'il paraissait évanoui. Et je l'ai laissé. C'est avec l'apparition d'une carte très convoitée, indiquant l'emplacement du plus grand butin de tous les temps de mémoire de pirate, que s'ouvre l'île au trésor. Magnifique roman de l'écrivain voyageur Robert Louis Stevenson, paru en 1883. Bientôt emporté par son goût immodéré pour le rhum, Billy Bones, qui fut le second du légendaire pirate Capitaine Flint, à qui l'on doit le trésor, laisse derrière lui le précieux parchemin. Et c'est ainsi que Jim Hawkins, le fils de l'aubergiste chez qui le corsaire est venu finir ses jours, hérite de la fameuse carte et se lance dans l'aventure. Autour de Jim, l'adolescent vierge de toute expérience, qui est le narrateur de cette histoire, se dessine un univers flamboyant, fait de vagues hautes comme des murs, de voiles gonflées par les vents, d'îles sauvages et de rêves de trésors. Un monde peuplé de pirates sanguinaires, de marins balafrés, tatoués et blanchis par le sel, saoulés au rhum, qui manient les mots comme le sable.
T'as raison, c'est un beau couteau, hein? Bon, tout juste escurer les dents.
La soif de l'or et le mirage de la fortune aveuglent tout un chacun, marin, pirate ou notable. Mais le véritable trésor n'est-il pas au fond, celui qui nous livre le merveilleux conteur qu'est Stevenson, à savoir le récit de cette aventure, transmis avec une joie communicative par la voix de Jim Hawkins. Nous voilà donc embarqués à ses côtés.
écoutons-le se remémorer avec passion cet épisode de sa jeunesse. Après avoir échappé de peu à la traque de renégats qui ont mis sa maison à sac, dans l'espoir de débusquer le fameux parchemin, Jim est sauvé in extremis par l'arrivée des gardes-chasse. Il se rend alors auprès du docteur Livesey, qui dîne au manoir de son ami le sieur Trelawney. C'est ensemble qu'ils décident d'ouvrir le paquet de toiles cirées tant convoité. Une découverte qui scellera entre les trois individus un lien très spécial. Mais pour l'heure, ouvrons le rouleau. La feuille de papier avait été cachetée en plusieurs endroits. Un dé à coudre avait servi de sceau. Ce même dé peut-être que j'avais trouvé dans la poche du capitaine. Le docteur a brisé la cire avec grand soin. Nous avons découvert la carte du Nil, avec latitude et longitude, sondage des fonds marins, nom des collines et baies, et tous les renseignements nécessaires pour y amener un navire à un mouillage sûr. L'île mesurait environ 9 milles de long sur 5 de large. On pourrait dire que sa forme était celle d'un gros dragon dressé, comportant deux ports bien abrités et une colline centrale baptisée la Longue-Vue. Plusieurs croix avaient été tracées à l'encre rouge et on pouvait lire ces quelques mots d'une écriture serrée et soigneuse, très différente des caractères tremblés du capitaine. « Ici, le gros du trésor ». C'était tout. Succinct et pour moi incompréhensible, mais suffisant pour combler de joie le sieur et le docteur Livesey. « Livesey, dit le sieur, renoncez à votre misérable clientèle. Demain, je pars à Bristol. Dans trois semaines, nous aurons le meilleur navire d'Angleterre, monsieur, et un équipage de choix. Hawkins viendra comme mousse. Vous ferez un fameux mousse, Hawkins. Vous, Livesey, vous êtes le médecin de bord. Moi, l'amiral. Nous prendrons Tom Redruth, le garde-chasse, Joyce et Hunter. Nous aurons des vents favorables, une traversée brève. Nous trouverons l'endroit sans aucun mal et ensuite... De l'argent à s'en remplir la panse, à se vautrer dedans, à faire des cocottes en papier jusqu'à la fin de nos jours. Trois semaines plus tard, embarquons à bord de l'Hispaniola. Le sieur Trelawney constitue bien vite un équipage sans être trop regardant sur la probité des marins qu'il recrute. On affrète un navire et l'on embarque 27 hommes à son bord. Parmi eux, le capitaine Smollett, un austère mais sérieux personnage. Le docteur Livesey, à la moralité également impeccable, notre jeune Jim Hawkins, Tom Redruth, le garde-chasse, et un cuisinier boiteux à l'air goguenard qui a rallié l'essentiel des hommes. Faisons donc connaissance avec Long John Silver, l'intrigant cuisinier à la jambe de bois et son compagnon à plumes, affublé du même nom que le célèbre pirate, Captain Flint. À bord du navire, Long John portait sa béquille suspendue par une lanière autour de son cou, afin de garder les mains libres autant que possible. C'était un curieux spectacle que de le voir coincer le bout de la béquille entre une cloison et s'appuyer dessus pour être solidaire avec le navire et s'affairer à sa cuisine comme s'il était sur la terre ferme. Le spectacle était encore plus étrange quand il traversait le pont par gros temps. Il avait fait tendre un ou deux filins pour l'aider à franchir les parties les plus exposées. On les appelait les boucles d'oreilles de Long John. Il passait de l'un à l'autre, tantôt se servant de sa béquille, tantôt la traînant par sa lanière, aussi vite qu'un autre homme pouvait le faire en marchant. Pourtant, certains des hommes qui avaient navigué avec lui auparavant s'apitoyaient de le voir ainsi diminuer. « T'es pas un homme ordinaire, Barbecue, » m'a dit le chef de chaloupe. « Il est allé à l'école dans ses jeunes années et il peut parler comme un livre si ça lui chante. Et courageux. Un lion, c'est rien à côté de Long John. Je l'ai vu en prendre quatre, lui, sans armes, et cogner leurs têtes les unes contre les autres. » Tout l'équipage le respectait, lui obéissait même. Il avait une manière bien à lui de parler à chacun, de rendre des services à tout le monde. Il se montrait toujours aimable à mon égard et paraissait toujours heureux de me voir dans la cuisine, qu'il maintenait aussi propre qu'un sou neuf. Les plats bien astiqués, accrochés au mur, et son perroquet en cage dans un coin. « Viens donc, Hawkins, » disait-il. « Viens faire un brin de causette avec John. T'es le bienvenu ici, fiston. Assieds-toi et écoute les nouvelles. V'là Captain Flint. J'appelle mon perroquet Captain Flint, comme le fameux flibustier. V'là Captain Flint qui prédit le succès de notre expédition. Pas vrai, Captain ?» Et le perroquet répétait à toute allure. « Pièce de huit, pièce de huit, pièce de huit !» sans paraître s'essouffler, jusqu'au moment où John couvrait la cage de son mouchoir. « Alors cet oiseau, disait-il, a peut-être 200 ans d'âge, Hawkins. Ils vivent pour toujours ou presque, ces bêtes-là. Et si quelqu'un a vu plus d'horreur, ça peut être que le diable en personne. Il a navigué avec England, le fameux Captain England, le pirate. » Il est allé à Madagascar, à Malabar et Suriname et Providence et Portobello. Il était présent quand on a renfloué les épaves des galions qu'apportaient les pièces d'argent. C'est là qu'il a appris pièces de huit. C'est pas étonnant. On en a remonté 350 000, Hawkins. Il a assisté à l'abordage du vice-roi des Indes, à la sortie de Goa. Ah oui. Et à le voir, tu croirais que c'est un bébé. Mais t'as senti la poudre, hein, Captain ? Paré à virer, hurlait le perroquet. Mais voyons qui se cache derrière l'apparence débonnaire du cuisinier boiteux. Alors que Jim s'est endormi au fond d'un tonneau, bercé par le balancement du bateau, il est soudainement réveillé par la voix tonitruante et gouailleuse de Long John Silver. Il s'apprête à se montrer quand les propos du cuisinier, visiblement occupé par un sombre complot, lui font perdre toute envie de sortir de sa cachette. Flint était capitaine. J'étais quartier-maître. Même abordage où j'ai perdu ma jambe. Le vieux Pugh a perdu ses loupiottes. C'était un maître chirurgien. Celui qui m'a empité. Diplômé à la faculté et tout, du latin à la pelle. Ah, c'était crié une autre voix, celle du plus jeune matelot à bord, sur un ton admiratif. C'était la fine fleur des flibustiers, hein, Flint ? Le vieux navire de Flint, je l'ai vu rubisselant de sang, et si plein d'or qu'il était prêt de couler. Sous son commandement, j'ai mis 2000 livres en sécurité. Mais écoute-moi bien, t'es qu'un gamin, mais t'es malin. Je le vois déjà, et je vais te parler d'homme à homme. Le gars qui a envie de me faire un sale coup, un gars qui me connaît, je veux dire, ben il attend d'être dans l'autre monde pour le faire. Il y en a qui s'effroyaient de Pugh, et il y en a qui s'effroyaient de Flint, mais Flint lui-même s'effroyait de moi. Effroyé, ouais, tout fier qu'il était. Il n'y avait pas d'équipage plus rude que celui de Flint. Le diable en personne se serait effroyé de prendre la mer avec eux. Ben, je vais te dire, je suis pas un vantard. T'as vu toi-même que je suis de bonne compagnie. Mais quand j'étais quartier maître, personne n'aurait appelé les vieux flibustiers de Flint agneau. Ah, tu crains rien sur le navire du vieux John. Ben, je vous dis au vrai, John, cette affaire me plaisait pas plus que la moitié de ça avant que nous causions. Mais maintenant, topez-la. Que tu serais un bon petit et pas bête non plus. Et j'ai jamais vu aucun gars qui ferait une plus belle figure de proue pour un gentilhomme de fortune. Je commençais à comprendre le sens de leurs paroles. Par gentilhomme de fortune, ils n'entendaient ni plus ni moins qu'un vulgaire pirate. Et la petite scène que je venais de surprendre constituait le dernier acte de la corruption d'un matelot honnête. Peut-être le dernier présent à bord. J'ai bientôt été rassuré sur ce point, car Silver a siffloté, et un troisième homme s'est approché et s'est assis avec eux. « Dick est de notre côté », a déclaré Silver. « Bon, je savais que Dick marcherait », a rétorqué la voix du chef de chaloupe, Israel Hans. « Il est pas fêlé, Dick. » Il a changé sa chic de joue et craché. « Mais vise-la, barbecue, ce que je veux savoir. Combien de temps que nous allons navigoter comme un sacré caboteur ? J'en ai presque plein le dos du capitaine Smollett. Il m'a assez engueulé, tonnerre. Je vais aller dans cette cabine, ouais. » Je veux leur conserve et leur vin, tout ça. Israël, dit Silver, ta tête vaut pas gros, et c'est pas d'hier. Mais t'es capable d'entendre, je crois. Au moins t'as des oreilles de bonne taille. Alors voilà ce que je te dis. Tu couches à l'avant, tu bosses dur et tu parles doux. Et tu restes sobre, jusqu'à ce que je te donne le signal. Et c'est comme ça, mon fils. Ouais, je dis pas non, hein, grognait le chef de chaloupe. Ce que je dis, c'est quand. C'est ça que je dis, quand, par tous les diables. Bah, si tu veux savoir, je vais te dire quand. Le plus tard possible, v'là quand. Il y a un marin de première, le capitaine Smollett, qui mène le navire pour nous. Il y a ce sieur et ce docteur qui ont une carte et tout. Je sais pas où qu'elle est, hein. Et toi non plus. Alors ben quoi? Je veux que ce sieur et ce docteur trouvent la marchandise et nous aident à la transporter à bord par tous les diables. Ensuite, pas de quartier. À ce moment précis, une sorte de clarté m'est tombée dessus dans le tonneau et levant les yeux, j'ai vu que la lune poudrait d'argent le mât et la voile de misaine. Et presque aussitôt, la voix de l'homme de vigie a crié « Terre ! Terre !» Nous approchions déjà du but.
« Tout le monde sur le pont ! Quelqu'un de vous a-t-il déjà vu cette terre-là ?
Je l'ai déjà vue, capitaine. Nous y avons fait de l'eau avec un navire marchand où j'étais coq.
Où est le mouillage ?
Au sud, derrière les lots du squelette.
Est-ce qu'on peut y entrer ?
C'est-à-dire, il y a un passage au milieu du détroit. Un passage comme creusé par la nature. Donnez-moi des gars qui souquent dur sur les rames, monsieur. Et dans un quart d'heure, on est à l'ancre.
Bon.
Descendez vite une embarcation.
Croyez tout savoir, Oyez, oyez mon histoire, écoutez attentivement, vous saurez enfin comment Barbe Rouge le pirate se retrouvait sur une seule patte, au bout du bras un crochet, sous le bandeau un œil crevé. Un très jeune moussaillon lui pose un jour la question: capitaine, excusez-moi, pourquoi donc cette jambe de bois? Et pourquoi cette béquille pour tenir sur une seule quille? Assieds-toi près de moi mon petit gars, je vais te conter cela. Je livrais un jour bataille contre fripouilles et canailles, n'écoutant que mon courage, je partis à l'abordage. Je ne prêtais point attention à ce fichu boulet de canon qui sans tambour ni trombone va me faucher la guibole. Ainsi donc, pour remplacer mon mollet et mes doigts de pied, on fixa à mon moignon ce joli petit pilon. J'étais tout seul sur le pont et je guettais l'horizon ainsi que le ciel azur, tout en respirant l'air pur. Autour des mâts du bateau tournoyaient des nuées d'oiseaux, tandis que je lève la tête, v'là-tu pas qu'une mouette se déleste prestement d'un petit besoin pressant. La fiente de ce volatile tombe comme un projectile dans mon œil grand ouvert, me privant de la lumière. Une fois de plus ma distraction me joua un tour de con. Avec un geste de dédain, je me frotte du revers de la main. Hélas, j'avais oublié qu'on m'avait mis un crochet.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
C'est dans un climat tendu que l'équipage aborde l'île du squelette, dont le nom annonce un funeste présage. Averti par le jeune Hawkins, le docteur, l'amiral Trelawney et le capitaine Smollett sont désormais conscients qu'ils ont embarqué des fripouilles à leur bord. De plus, ces derniers sont en nombre largement supérieur, à savoir 19 voyous contre 7 honnêtes hommes.
Votre situation est très fâcheuse.
Nous avons toutes les armes, on peut les surprendre.
C'est mon plan, mais choisissons bien notre heure. Est-ce que Silver a fait allusion au moment où il comptait nous attaquer?
Non, monsieur.
Voilà mon avis. Ils n'attaqueront pas avant qu'on ait découvert le trésor.
Oui, mais croyez-vous que Silver tiendra ses hommes si longtemps?
Qu'ils les tiennent seulement encore 24 heures, et d'ici là, toute cette bande de mutins sera au fond de la cale. Voilà ce que nous devons faire. Ayons l'air tranquilles. Ne leur donnons pas de raison de s'alarmer, sans cela ils nous devanceront. Pendant ce répit, armons ceux qui nous restent fidèles et surveillons les autres de près. Si vous entendez murmurer contre Silver, venez me prévenir.
Face au climat de rébellion qui couve, le capitaine donne quartier libre à l'équipage. Jim, de son côté, se glisse dans l'une des chaloupes pour découvrir l'île en solitaire. À terre, Long John révèle toute la férocité dont il est capable en s'attaquant au dernier marin qui ne parvient pas à corrompre. Caché derrière un fourré, Jim, décidément abonné au rôle d'espion, assiste à la scène terrifiante. On aurait pensé que n'importe qui se serait réjoui de toucher terre après une si longue traversée, mais l'apparence de l'île, avec ses forêts grises et mélancoliques et ses farouches clochers de pierre, m'a serré le cœur. Dès ce premier coup d'œil, j'ai détesté l'idée même de l'île au trésor. Il n'y avait pas le moindre souffle d'air, ni le moindre bruit, sauf celui du ressac qui grondait à un demi-mille le long des plages et à l'assaut des récifs. Une odeur étrange stagnait au milieu du mouillage, une odeur de feuilles détrempées, de troncs pourrissants. L'île semblait inhabitée, j'avais laissé mes camarades derrière moi et zigzaguais maintenant entre les arbres, en éprouvant alors pour la première fois le plaisir de l'exploration. Des plantes inconnues fleurissaient ici et là. J'ai vu des serpents, et l'un d'eux, installé sur une corniche rocheuse, a dressé la tête et a sifflé dans ma direction avec un bruit un peu semblable à une toupie. Je suis arrivé près d'un grand marais planté de roseaux. Le marécage fumait dans le soleil brûlant. Soudain, une sorte d'effervescence a agité les joncs. Un canard sauvage s'est envolé avec un couac, puis un autre. J'ai pensé aussitôt que certains de mes compagnons devaient s'approcher. Je ne me trompais pas. Bientôt, j'ai entendu le son faible et lointain d'une voix d'homme qui devenait peu à peu plus forte et plus proche. Saisi d'une grande frayeur, j'ai rampé sous les branches basses d'un chêne et suis resté accroupi, à l'affût, aussi silencieux qu'une souris. J'ai alors reconnu la voix de Silver, lancée dans une conversation passionnée et presque féroce. Je me suis alors avancé autant que possible sous le couvert des arbres. Deux hommes se tenaient debout en plein soleil. Silver avait jeté son chapeau à côté de lui sur le sol et levait vers l'autre homme, un membre de l'équipage, son grand visage rasé et blond, brillant de sueur, comme pour le supplier. « Camarade, disait-il, c'est que je t'estime ton pesant d'or. Ton pesant d'or, tu peux miser là-dessus. Si tu m'attirais pas comme l'aiguille de la boussole, tu crois que je serais là à te préviendre ? C'est fichu, tu peux plus rien changer. Je te parle pour sauver ta peau. Et si l'un des autres sauvages l'apprenait, qu'est-ce qui m'arriverait, Tom ? Hein ? Dis-moi, qu'est-ce qui m'arriverait ?»« Silver, a répondu l'autre. Et j'ai remarqué que non seulement son visage était écarlate, mais que sa voix était aussi rauque que celle d'un corbeau et vibrait de plus comme une corde tendue. « Silver, vous êtes vieux et vous êtes honnête à ce qu'on dit. Et vous avez de l'argent aussi, que des tas de pauvres marins en ont pas. Et vous êtes courageux, si je me trompe pas. Et vous voulez me dire que vous allez vous laisser entraîner par ce ramassis de minables ? Pas vous. Aussi sûr que Dieu me voit, si je me détourne de mon devoir, qu'on me coupe plutôt la main. » Un bruit l'a interrompu tout à coup. J'avais trouvé l'un des marins honnête. Eh bien, au même instant, j'en ai entendu un autre. Un son ressemblant à un cri de colère s'est élevé au loin dans le marais, suivi par un second, et enfin un hurlement affreux et prolongé. Les rochers de la longue vue en ont envoyé l'écho une vingtaine de fois. Toute la troupe des oiseaux du marais s'est envolée de nouveau dans un bruissement simultané, assombrissant les cieux. Alors que ce cri d'agonie résonnait encore dans ma tête, le silence a rétabli son règne. Et seul le froissement d'ailes des oiseaux qui redescendaient et le fracas du lointain ressac troublaient la langueur de l'après-midi. Tom avait sursauté au bruit comme un cheval que l'on éperonne, mais Silver n'avait pas sourcillé. Il restait sur place, appuyé de manière nonchalante sur sa béquille, observant son compagnon comme un serpent prêt à frapper. « Mais au nom du ciel, dites-moi ce que c'était que ce cri !» demanda Tom. « Ça ?» a répliqué Silver, souriant mais toujours méfiant, son œil semblable à une tête d'épingle dans son large visage, mais brillant comme un éclat de verre. « Ça ? Oh, je dis que ce serait Alan. » À ces mots, ce pauvre Tom a réagi en héros. « Alan ? Que l'âme de ce vrai marin repose en paix. Et vous, John Silver, je vous ai eu longtemps pour compagnon, mais je veux plus de vous. Si je meurs comme un chien, je mourrai sans faillir à mon devoir. Vous avez tué Alan, vrai ? Tuez-moi aussi si vous pouvez, mais je vous y défie. » Ayant parlé ainsi, ce matelot courageux a tourné le dos au cuisinier sans hésiter et s'est mis à marcher vers la plage. Mais il ne devait pas aller bien loin. Poussant un cri, John s'est agrippé à la branche d'un arbre, a dégagé la béquille de son aisselle et a lancé ce projectile insolite de toutes ses forces sur Tom. La pointe a frappé le pauvre homme dans le dos, entre les épaules, avec une violence stupéfiante. Il a levé les bras, a exhalé une sorte de gémissement et s'est écroulé. Personne ne saura jamais s'il était blessé légèrement ou gravement. Il est possible à en juger par le bruit que le choc lui ait brisé le dos, mais il n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits. Silver, agile comme un singe, même sans jambes ni béquilles, était au-dessus de lui et enfonçait par deux fois son coutelas jusqu'à la garde, dans le corps sans défense. Juste après cette terrible scène, Jim s'enfuit dans la forêt où une rencontre des plus insolites l'attend. Bien qu'apparaissant brièvement, le personnage que vous allez découvrir joue un rôle décisif dans l'intrigue. Échoué seul sur l'île plusieurs années, il a déjà découvert et pris possession du trésor. Mais ne brûlons pas trop vite les étapes. Retrouvons Jim éperdu de peur. Du flanc de la colline, qui était ici escarpée et rocheuse, une poignée de gravier s'est détachée et a dégringolé en crépitant à travers les arbres. Tournant les yeux instinctivement dans cette direction, j'ai vu une silhouette bondir avec une grande vivacité pour se cacher derrière un pin. Je n'aurais pas pu dire ce que c'était. Un ours, un homme, un singe, cela paraissait sombre et hirsute. Je n'en savais pas plus. Mais la terreur de cette nouvelle apparition m'a figé sur place. J'étais pris entre deux feux, me semblait-il. Derrière moi, les assassins, devant moi, cet être indéfini en embuscade. J'ai vite décidé que je préférais les dangers connus aux inconnus. Silver lui-même m'apparaissait moins inquiétant quand je l'opposais à cette créature des bois. J'ai donc tourné les talons et, surveillant mes arrières en regardant par-dessus mon épaule, j'ai commencé à retourner sur mes pas en direction des chaloupes. Aussitôt, la silhouette est réapparue et, décrivant un large cercle, a entrepris de me couper la route. J'étais fatigué de toute façon et je pouvais voir que toute tentative de vaincre cet adversaire à la course était vaine. La créature filait d'arbre en arbre comme un chevreuil, courant sur deux jambes à la manière d'un homme, si ce n'est que je n'avais jamais vu un homme courir en restant plié en deux. C'était bien un homme, pourtant, je ne pouvais plus en douter. Me souvenant de ce que j'avais entendu dire des cannibales, j'étais à deux doigts d'appeler au secours. Mais le simple fait de le savoir à un homme, même sauvage, m'avait un peu rassuré, ce qui ravivait par contre-coup ma peur de Silver. Je me suis donc arrêté et me suis demandé comment m'échapper. Alors que je réfléchissais, le souvenir de mon pistolet m'est soudain venu à l'esprit. En pensant que je n'étais pas sans défense, j'ai repris courage. Faisant face résolument à cet homme de l'île, j'ai marché d'un pas vif vers lui. Entre-temps, il s'était caché derrière un autre tronc d'arbre. Mais il devait m'observer de près, car dès qu'il m'a vu marcher vers lui, il est venu lui-même à ma rencontre. Puis il a hésité, a reculé, s'est avancé de nouveau, et enfin, provoquant mon étonnement et mon trouble, il s'est mis à genoux et a joint les mains en un geste de supplication. Voyant cela, je me suis arrêté une fois de plus. « Qui êtes-vous ? » lui ai-je demandé. « Ben Gunn, » a-t-il répondu. Et sa voix rauque, mal assurée, grinçait comme une serrure rouillée. « Je suis le pauvre Ben Gunn, c'est moi. Et j'ai pas parlé à aucun chrétien, ça fait 3 ans. » Je pouvais voir maintenant que c'était un homme blanc comme moi et que ses traits étaient même agréables. Là où sa peau était visible, elle était brûlée par le soleil. Même ses lèvres étaient noires. Et ses yeux clairs ressortaient de manière étonnante dans un visage si sombre. De tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés, c'était le plus dépenaillé. Il était vêtu de lambeaux, de toile à voile et de drap marin. Et ce patchwork extraordinaire tenait ensemble par un système d'attaches aussi diverses qu'incongrues. Des boutons de cuivre, des bouts de bois, des lacets de choses goudronnées. Il portait autour de la taille une vieille ceinture de cuir à boucle de cuivre, qui était la seule pièce intacte de son accoutrement. « 3 ans, me suis-je exclamé. Avez-vous fait naufrage ?»« Non, camarade, j'ai été marronné. » J'avais déjà entendu ce mot. Je savais qu'il désignait une horrible punition courante chez les flibustiers, qui consistait à abandonner le coupable sur quelque île isolée et désolée. « Marronné 3 ans de ça ?» a-t-il poursuivi, et mangeait tout ce temps des chèvres, des baies sauvages et des huîtres. Mes camarades, mon cœur se languit d'un régime chrétien. T'aurais donc pas un bout de fromage sur toi par chance, non? Hein? Maintes longues nuits, j'ai rêvé de fromage, grillé plutôt. Et je me réveille et je suis ici. Si jamais je remonte à bord, vous aurez des livres de fromage. Pendant tout ce temps, il palpait l'étoffe de ma vareuse, caressait mes mains, regardait mes bottes, et de manière générale, dans les silences de son discours, manifestait un plaisir enfantin en présence d'un compagnon humain. En 3 ans, j'ai tout réfléchi sur cette île solitaire et je suis revenu à la piété. Tu me verras pas tant goûter le rhum ou juste un petit dé à coude qui porte chance à l'occasion. C'est certain que je ferai le bien, je sais comment. Hé camarade, regardant autour de lui et abaissant sa voix jusqu'au murmure, je suis riche. J'étais maintenant certain que la solitude avait rendu fou ce pauvre homme. Je suppose que mon sentiment se lisait sur mon visage car il a repris en s'emportant. « Riche, riche, te dis. Et tu sais quoi? Je ferai un homme de toi, camarade. Hein, mon ami, tu remercieras ta bonne étoile, sûr, car t'es le premier qui m'a trouvé. »
On dirait que t'as changé de résidence, Georges.
Ouais. En attendant, j'ai pris le navire.
Est-ce qu'on t'avait demandé de le faire?
Non, mais toi, t'aurais jamais réussi.
Enfermez-le dans la cale.
On exécutera ton ordre, John, mais je peux te dire que t'as pas raison de condamner George Merry sans lui donner une chance. George est un garçon qui n'a pas de tête, mais il va falloir se battre sur cette damnée île. Et quand il s'agit de se battre, il sait le faire. Ce serait une bêtise de le laisser pourrir dans la cale.
Bah évidemment,
j'ai raison, John Silver.
T'as fait là un joli discours, Israël Hans. Nous allons soumettre la chose à M. Merry. Je veux bien s'il jure de ne plus faire d'idiotie.
Je suis avec toi, capitaine.
Alors, c'est d'accord. Et moi, comme capitaine, je vous donne les ordres. À terre, tous et tout de suite. Excepté Israël et Agot qui restent. Vous deux, vous restez à bord pour veiller sur le navire.
Oui, capitaine.
S'il vous arrivait le moindre ennui, signalez-le-moi par un coup ou deux de canon.
D'accord.
Le pavillon noir à tête de mort flotte désormais à la proue de l'Hispaniola. Fuyant John Silver et son armée de mutins, l'armateur Trelawney, le docteur, le capitaine Smollett, Jim et une poignée d'hommes fidèles se sont réfugiés dans un fortin autrefois construit par le capitaine Flint. Là, ils essuient la canonnade des pirates et organisent leur riposte malgré une situation toujours inférieure en nombre. Après une nuit d'affrontement, laissant des morts de chaque côté, le cuisinier boiteux devenu chef des rebelles se présente devant eux, richement vêtu, et coiffé d'un magnifique chapeau à ruban de dentelle et portant à la main un drapeau blanc. « Eh bien voilà, » dit Silver en s'adressant au capitaine. « De notre côté, nous voulons ce trésor, et nous l'aurons. De votre côté, vous aimeriez autant sauver vos vies, je suppose. Vous avez une carte, non ?»«
Peut-être, » a répondu le capitaine.
« Oh, vous l'avez, je le sais, » a poursuivi Long John. « Pas la peine de le prendre de haut avec moi. Il n'y a pas une particule d'avantage à en retirer, vous pouvez miser là-dessus. Je veux dire, nous voulons votre carte. Et je vous ai jamais voulu de mal, moi-même. »
« Ça ne prend pas avec moi, mon bonhomme, » a interrompu le capitaine. « Nous savons exactement ce que vous aviez l'intention de faire et cela nous est égal, car maintenant, vous voyez, vous ne pouvez pas le faire. »
Et le capitaine l'a regardé calmement et s'est mis à bourrer sa pipe. Long John, à son tour, a bourré sa pipe et l'a allumée. Les deux hommes ont fumé en silence pendant pas mal de temps, tantôt se dévisageant, tantôt tassant leur tabac, tantôt se penchant pour cracher. C'était aussi bien de les regarder que d'aller au théâtre.
« Bon, voilà, » a commencé Silver.
« Vous nous donnez la carte pour aller au trésor, vous cessez de tirer sur de pauvres marins et de leur défoncer la tête pendant qu'ils dorment, vous faites ça et nous vous offrons un choix. Soit vous venez à bord avec nous, une fois le trésor embarqué, alors je vous donne ma garantie, sur mon honneur, de vous déposer quelque part à terre, sain et sauf. Ou bien, si ça serait pas à votre goût, certains de mes matelots étant rudes, alors vous pouvez rester ici. » « Vous pouvez. Nous répartirons les provisions, à chaque homme sa part. Et je vous donne ma garantie, comme avant, de parler au premier navire que je vois. Et je les envoie ici pour vous prendre. Ça, c'est parler. Vous conviendrez. Vous pourriez pas avoir à espérer mieux, non ? Et j'espère, » élevant sa voix, « que tous les matelots dans ce fortin prêteront attention à mes paroles, car ce que je dis à l'un, je le dis pour tous. »
Le capitaine Smollett s'est levé et a tapoté sa pipe dans la paume de sa main gauche pour en vider les cendres.
« C'est tout. Mon dernier mot, tonnerre. Refusez ça, vous verrez plus rien de moi que des balles de fusil. »
« Très bien. Maintenant, écoutez-moi. Si vous venez un par un, sans armes, je m'engage à vous coller tous au fer et à vous ramener en Angleterre où vous aurez droit à un procès équitable. Sinon, « je m'appelle Alexander Smollett, j'ai défendu les couleurs de mon souverain et je vous enverrai tous par le fond. Vous ne pouvez pas trouver le trésor et il n'y a pas un homme parmi vous capable de manœuvrer le navire. Vous ne pouvez pas nous combattre. Gray, l'un des matelots ici présents, a échappé à 5 d'entre vous. Votre vaisseau est coincé, Maître Silver. Vous êtes sur une côte sous le vent, ainsi que vous le constaterez. Je me tiens devant vous et je vous le dis. Et ce sont les dernières bonnes paroles que vous entendrez de moi. Car au nom du ciel, je vous mettrai une balle dans le dos la prochaine fois que je vous verrai. En avant, marche, mon gars. Filez d'ici, s'il vous plaît, en vitesse et oust !»
Le visage de Silver était à voir. Les yeux lui sortaient de la tête de rage. Il a secoué sa pipe pour en jeter les braises.
« Un coup de main pour m'aider à me lever » s'est-il écrié. « Pas moi !» a rétorqué le capitaine.
« Qui me donnera un coup de main » a-t-il hurlé.
Pas un homme n'a bougé parmi nous. Grommelant les pires imprécations, il a rampé sur le sable jusqu'au moment où il a pu s'appuyer sur le porche et se hisser sur sa béquille. Puis il a craché dans la source.
« Là !» a-t-il crié. « Voilà ce que je pense de vous. Avant qu'une heure soit achevée, j'aurai enflammé votre vieille baraque comme un punch au rhum. Riez, tonnerre, riez. Avant qu'une heure soit achevée, vous rirez dans l'autre monde. Ceux qui crèveront seront les moins à plaindre. »
Mais voici l'heure pour Jim de prendre part à la bataille. Dès le lendemain matin, Long John et ses hommes attaquent le fortin. Quittant son rôle d'observateur, Jim défend sa peau et celle de son clan, en affrontant vaillamment les renégats qui les assaillent. Soudain, une nuée de pirates vociférants a bondi depuis les bois du côté nord et a couru droit à la palissade. Au même moment, une balle de fusil a sifflé à travers la porte et brisé le mousquet du docteur en mille morceaux. Les assaillants ont escaladé la palissade comme des singes. Le sieur Trelawney n'arrêtait pas de tirer. Trois hommes sont tombés, l'un en avant dans l'enclos, deux à l'extérieur. Mais de cela, l'un était de toute évidence plus effrayé que blessé, car il s'est relevé en un clin d'œil et a disparu aussitôt entre les arbres. Deux avaient mordu la poussière, un s'était enfui, quatre avaient pris pied à l'intérieur de nos retranchements. Tandis que depuis l'abri des bois, sept ou huit hommes, chacun ayant sans doute plusieurs mousquets à sa disposition, concentraient à feu nourri, bien que vain, sur le fortin. Les quatre qui avaient réussi l'abordage ont foncé droit sur le bâtiment. Ils hurlaient en courant et les hommes cachés dans les arbres criaient en écho pour les encourager. Ce n'était que cris et confusion, éclairs et détonations. Un affreux gémissement a résonné dans mes oreilles.
« Dehors, mes enfants, dehors !» a crié le capitaine. « Combattons-les à l'extérieur, au coutelas !» J'ai saisi un coutelas sur la pile et me suis précipité à la porte et suis sorti dans la clarté du soleil. Devant moi, le docteur descendait la butte à la poursuite de son adversaire et sous mes yeux a rabattu sa garde et l'a envoyé au sol avec une grande entaille en travers du visage. « Contournez la maison, les gars, contournez la maison !» s'est écrié le capitaine. Et malgré le tumulte, je percevais que sa voix avait changé. J'ai obéi machinalement. Je suis parti vers l'est et mon coutelas levé, j'ai passé le coin. Là, je me suis retrouvé nez à nez avec Anderson, le maître d'équipage. Il a rugi et brandi son arme au-dessus de sa tête. La lame étincelait au soleil. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Alors que le coup était encore en suspens, j'ai bondi de côté en une fraction de seconde et trébuchant dans le sable mou, j'ai roulé la tête la première en bas de la pente. Tout s'est passé si vite qu'en me relevant, le combat s'était achevé et la victoire était à nous. Des quatre mutins qui avaient franchi la palissade, un seul nous avait échappé. « 5 !» s'est exclamé le capitaine, qui, bien que blessé, n'avait rien perdu de sa vaillance. « Ah voilà qui est mieux. 5-3, ça nous laisse à 4-9. Nos chances sont meilleures qu'au début, nous étions 7-19 alors. »«
Les forces sont moins disproportionnées, ils auront de la peine à nous chasser d'ici. »«
Il se peut qu'ils n'essayent pas. »«
Pourquoi donc ?»«
Ils attendront l'heure de la marée. Ils n'auront ensuite qu'à amener la goélette tout près du rivage. » Une fois là, en quelques coups de canon, ils démoliront le fortin.
Par Dieu, vous avez tout à fait raison.
Croyez-vous qu'ils y songeront ?
Silver, peut-être. C'est le diable. Ils sont entre les mains des embarcations. Sans ça, on pourrait se glisser hors d'ici. Couper les amarres et le navire s'échouerait.
Je peux y aller à la nage ?
Je ne puis me passer de vous.
Ne vous agitez pas, il faut rester immobile.
Quelque temps plus tard, suivons l'intrépide Jim, parti reprendre l'Hispaniola. Alors que le docteur soigne les blessés, Jim, censé surveiller le fortin, délaisse ses compagnons et file à l'anglaise, ici on dit file à la française, pour tenter de ravir le navire aux mains des pirates. Se saisissant de la barque de Ben Gunn, il parvient à rejoindre l'Hispaniola dont il coupe les amarres. Sans véritable maître à bord et chahuté par le vent, le navire a des allures de vaisseau fantôme. Je ne voyais pas âme qui vive. Le plancher, qui n'avait pas été frotté depuis la mutinerie, portait de nombreuses traces de pas, et une bouteille vide, le goulot brisé, roulait de ci de là comme un être vivant. Soudain, l'Hispaniola s'est remise vent debout. Les focs ont claqué bruyamment derrière moi, le gouvernail s'est rabattu, le bateau tout entier s'est soulevé en frémissant de manière effrayante, et au même moment, la baume de grande voile, cette barre horizontale maintenant la voile aux mains, a basculé, les écoutes grognant dans les poulies, ce qui m'a découvert le pont arrière sous le vent. Les deux gardiens que j'avais entendus se disputer violemment la veille étaient là. Le premier gisait sur le dos, aussi raide qu'un levier de marine, les bras étendus comme ceux d'un crucifix, ses lèvres écartées découvrant ses dents. À ses côtés, Israel Hans, le chef de chaloupe, était adossé au bastingage, le visage aussi blanc sous son hâle qu'une chandelle. Pendant un moment, la goélette a rué et fait des écarts comme un cheval vicieux, les voiles se gonflant tantôt sur un bord, tantôt sur l'autre, la baune se balançant sans cesse au point que le mât gémissait sous la contrainte. De manière répétée, des volets d'embrun bondissaient par-dessus le bastingage et l'étrave heurtait lourdement une vague. À chaque soubresaut de la goélette, le marin au bonnet rouge glissait d'un côté à l'autre, mais, spectacle affreux, ce traitement brutal ne modifiait ni son attitude, ni le sourire figé qui révélait ses dents. À chaque saut, de même, Hans semblait s'enfoncer encore plus en lui-même et s'affaisser sur le pont. En même temps, j'observais autour d'eux des flaques de sang noir sur les planches et j'étais de plus en plus convaincu qu'ils s'étaient entretués dans leur fureur d'ivrogne. Esquivant la baume au moment où elle balayait le pont, je me suis précipité à l'arrière et en bas de l'escalier menant à la cabine. Vous ne sauriez imaginer le désordre qui y régnait. Tous les meubles fermant à clé avaient été forcés à la recherche de la carte. Une épaisse couche de boue couvrait le parquet sur lequel les bandits s'étaient assis pour boire ou discuter après avoir pataugé dans les marais. Des traces de mains sales maculaient les cloisons blanches aux moulures dorées. Des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins au rythme du roulis. Un livre de médecine du docteur était ouvert sur la table, la moitié des pages ayant été arrachées sans doute pour allumer les pipes. Au milieu de tout cela, la lampe diffusait encore une lueur fumeuse, aussi sombre et brune que l'acajou. Je suis descendu dans la cale, tous les tonneaux avaient disparu. Et une proportion étonnante des bouteilles avait été bue ou jetée. Il est certain que depuis la mutinerie, pas un des hommes n'avait jamais été sobre.
Sometimes in the light, at the edge of the world, the ghost of a ship with his tacksail furled. Night after night, she would stand on the shore and dream of the love that she knew before. The tide rose out, the tide rose in,
without a thought for the ways of men. And he set sail for the western main to rob the ships of the Queen of Spain. And she would be his pirate's bride. She gave him the pistol and the sword at his side. The tide rose in without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold to sing my love again.
Four fathom five, my true love lies. No fine wooden casket, no gold in his eyes. Where is the glory? Where is the pride?
The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. Here in the light, at the edge of the world, wait for his ship with his tack sail furled. And day after day he would stand on the shore and dream of the life that we knew before. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold to sing my love again.
Jim croit être parvenu à ses fins en dissimulant l'Hispaniola dans une crique plus au nord de l'île. Mais sa chance tourne et il est finalement fait prisonnier par les pirates. Ces derniers, épuisés par les affrontements, le soleil, la fièvre et les effets du rhum, sont gagnés par la rage et manquent de peu de liquider leur chef. Long John joue alors sa dernière chance en leur livrant la fameuse carte du trésor qu'il a obtenue dans d'obscures circonstances. On comprendra plus tard pourquoi on la lui a cédée sans trop de résistance. Escorté par ses sbires qui piavent d'impatience, Long John entreprend de débusquer l'endroit où est enterré le trésor de Flint. Jim est à nouveau le témoin privilégié de ce moment tant attendu. Nous avons atteint le premier des grands arbres, mais la boussole avait révélé que ce n'était pas le bon. De même pour le deuxième. Le troisième s'élevait à peu près de 200 pieds dans les airs. On le voyait de loin en mer, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et on aurait pu l'inscrire sur la carte comme repère pour la navigation. Mais ce n'était pas sa taille qui impressionnait mes compagnons. C'était de savoir que 700 000 livres en or étaient enterrés quelque part sous son ombre. À mesure qu'ils s'approchaient, la pensée de l'argent effaçait leurs frayeurs récentes. Leurs yeux flamboyaient, leurs pas devenaient plus légers et plus vifs. Toute leur âme était attachée à cette fortune, à cette vie d'extravagance et de plaisir qui attendait chacun d'entre eux. Silver sautillait en grognant sur sa béquille. Ses narines dilatées frémissaient. Il jurait comme un démon quand les mouches se posaient sur sa peau brûlante et luisante. Il tirait furieusement la corde qui m'accrochait à lui et de temps en temps se retournait pour me lancer un regard assassin. Il est certain qu'il ne cherchait pas à dissimuler ses pensées. Il est certain que je les lisais à livre ouvert. La proximité immédiate de l'or avait aboli tout le reste. Je ne me doutais pas qu'il espérait s'emparer du trésor, trouver et aborder l'Hispaniola à la faveur de la nuit, égorger tous les honnêtes gens sur cette île et reprendre le large selon son intention première, chargé de crimes et de butins. Troublé par ces craintes, j'avais du mal à soutenir l'allure rapide des chasseurs de trésors. Je trébuchais de manière répétée. C'est ce qui a amené Silver à tirer la longe si brutalement et à me lancer ses regards meurtriers. Nous arrivions à la lisière des broussailles. Hourra les gars, tous ensemble, s'est écrié Mary. Et les premiers se sont mis à courir. Soudain, moins de 10 yards, un peu plus de 8 mètres plus loin, nous les avons vus s'arrêter. Un cri sourd s'est élevé. Silver a avancé 2 fois plus vite, creusant la terre du bout de sa béquille comme un possédé. Et l'instant d'après, lui et moi nous arrêtions net à notre tour. Devant nous s'ouvrait une grande excavation, pas très récente, car ses parois s'étaient éboulées et de l'herbe poussait au fond. Dans l'herbe reposait le manche cassé d'une pioche et les planches éparpillées de plusieurs caisses. J'ai vu sur l'une de ces planches gravées au fer rouge le mot « Walrus », le nom du navire de Flint. Tout était parfaitement clair. La cachette avait été découverte et pillée. Les 700 000 livres avaient disparu. En guise d'épilogue, dévoilons enfin le trésor à la source de ce vent de folie. Soudain, 3 coups de mousquet, tirés depuis les fourrés par le docteur, éparpillent le petit groupe de flibustiers. Seul Silver, voyant le vent tourner, baisse les armes et se rend, faisant de Jim sa monnaie d'échange pour échapper à la potence. Les voici donc parvenus dans une grotte où le fameux butin, découvert bien avant eux par Ben Gunn durant son long séjour sur l'île, est désormais exposé aux yeux de tous. C'est sur la contemplation de ces richesses que Stevenson clôt son roman, comme une sorte d'hallucination, ou comme un rêve héroïque qu'aurait fait le jeune Jim, comme tous les garçons de son âge, en quête d'aventure. À l'entrée de la grotte, le sieur Trelawney nous attendait. Au salut poli de Silver, il s'est empourpré. « John Silver, dit-il, vous êtes un prodigieux gredin et un imposteur. On me dit que je ne dois pas vous traîner en justice. Eh bien, je ne le ferai pas. Mais les morts, monsieur, sont autant de boulets accrochés à votre cou. « Merci de tout cœur, monsieur, a répondu Long John en saluant de nouveau. Je ne veux pas de remerciements. Je manque gravement à mon devoir. Reculez !» Là-dessus, nous sommes tous entrés dans la grotte. C'était un lieu vaste et aéré, au sol sablonneux, avec une petite source et un bassin d'eau claire surmonté de fougères. Le capitaine Smollett était étendu devant un grand feu. J'ai aperçu dans un coin éloigné, éclairé dans la pénombre par des reflets intermittents du feu, des empilements carrés de lingots d'or et de grands tas de pièces de monnaie. C'était une étrange collection, réunissant presque toutes les monnaies du monde, anglaise, française, espagnole, portugaise, des louis et des georges, des doublons et des doubles guinées, des sequins et des moïdors d'or brésiliens, les effigies de tous les rois d'Europe depuis un siècle. De curieuses pièces orientales frappées de signes ressemblant à des bouts de ficelle ou à des morceaux de toile d'araignée, des pièces rondes et des pièces carrées et des pièces trouées comme si elles devaient être portées autour du cou. Et quant à leur nombre, il y en avait autant que de feuilles à l'automne, si bien que j'avais mal au dos et aux doigts à force de me baisser et de les trier. C'était le trésor de Flint que nous étions venus chercher de si loin et qui avait déjà coûté la vie à 17 hommes de l'Hispaniola. Combien de vies avaient été sacrifiées pour l'amasser? Combien de fiers vaisseaux envoyés par le fond? Combien d'hommes valeureux poussaient les yeux bandés sur la planche? Et ce qu'il avait coûté de sang et de malheur, de coups de canon, de honte et de mensonges et de cruauté, nul homme au monde ne pouvait sans doute le dire. Nous avons tous reçu une bonne part du trésor, et l'avons utilisé sagement ou stupidement, selon notre nature. Le capitaine Smollett a pris sa retraite. Quant à Ben Gunn, il a reçu 1 000 livres qu'il a dépensés ou perdus en 3 semaines. De Silver, qui s'est enfui du navire avec un sac de pièces volées à la première escale, nous n'avons plus jamais entendu parler. Ce redoutable marin à une jambe est enfin sorti pour de bon de ma vie. Mais je me dis qu'il doit couler des jours heureux avec son fameux perroquet, capitaine Flint. Il faut l'espérer, je suppose, car ses chances de bonheur dans l'autre monde sont très faibles. Quant à moi, mes pires cauchemars sont ceux où j'entends le ressac marteler les côtes de l'île au trésor, ou bien ceux où je me dresse dans mon lit, la voix stridente du perroquet résonnant encore dans mon oreille. « Pièce de 8 ! Pièce de 8 !»
Ça peut pas faire de mal.
Retrouvez le texte dans sa nouvelle traduction signée Jean-Jacques Greff aux éditions Tristram. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Valérie Lavalard. Elle a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.